Vous écoutez Apprendre le japonais avec Louis Lin, le podcast qui vous apprend le japonais le plus rapidement possible. Savoir lire le japonais, c'est ce dont je veux parler dans cet épisode. C'est un sujet très 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 important. 95% des gens qui commencent à apprendre le japonais ne sauront jamais lire une phrase normale en japonais après même des années. Donc 95% des gens vont échouer. En tout cas, c'est mon estimation. Je pense que c'est une bonne estimation. Donc si vous ne prenez pas juste 5 minutes pour regarder cet épisode ou l'écouter si vous écoutez le podcast, ça va peut-être vous faire perdre des années de votre vie d'apprentissage du japonais. Au final, vous allez abandonner parce que vous n'allez pas voir de progrès. Voilà, j'exagère un peu les choses, mais c'est ça. Si vous voulez aller voir des vidéos de chats sur YouTube, bah allez-y. Mais si vous pouvez pas investir juste 5 minutes pour apprendre la méthodologie correcte, étape par étape, pour comment savoir lire le japonais rapidement, vous allez perdre énormément de temps dans le futur. Donc voilà, en général, les gens, quand ils apprennent à lire le japonais, pour savoir lire le japonais, ça leur prend des années, en fait, parce qu'ils utilisent des méthodes qui ne sont pas efficaces. Et en général, j'essaye de ne pas pointer mon doigt vers des coupables, mais là, je pointe mon doigt vers le système scolaire, parce que le système scolaire nous inculque des méthodes pour apprendre les langues qui sont pas nécessairement très efficaces. J'ai rencontré plusieurs profs de japonais qui sont francophones en fait, hein, et à vrai dire leur niveau en japonais est un peu voilà. Donc je pense que eux-mêmes ils ne connaissent pas vraiment les vraies méthodes pour apprendre le japonais de manière efficace, donc apprendre le japonais de manière rapide, parce que ces profs de japonais, ils sont sûrement allés à la fac, ils sont allés à l'université, ils ont étudié le japonais en cours, et voilà, ils ont passé 5 années à étudier le japonais comme ça. Bien sûr, si mon travail c'était d'apprendre le japonais pendant 5 ans tous les jours et j'ai que ça à faire, bah oui, évidemment je vais devenir bon en japonais. Mais si vous êtes comme moi, si vous êtes comme la plupart des gens, ou vous êtes juste quelqu'un à la maison, vous avez déjà un travail où vous étudiez, vous apprenez tout seul, il y a vraiment, enfin, vous avez beaucoup moins de temps pour apprendre le japonais, donc il faut trouver les méthodes qui sont les plus efficaces, parce que sinon ça va pas marcher. Vous allez parler japonais dans 15 années, vous allez lire le japonais dans 20 ans peut-être. Donc voilà, alors ce dont je voulais parler dans cet épisode, je pense que je vais vous donner en fait une méthode pour savoir lire le japonais vraiment étape par étape, mais plus tard dans la vidéo. Ce dont je veux vraiment parler déjà au début du moins, c'est quels sont les problèmes que la plupart des gens rencontrent quand ils apprennent à lire le japonais, donc le problème de la plupart des gens. Et ensuite je vais parler un peu de la méthode la plus efficace de manière générale, et ensuite vers la fin je vous donnerai vraiment étape par étape qu'est-ce que vous devrez faire. Alors premièrement, parlons déjà des problèmes que la plupart des gens ont quand ils apprennent à lire le japonais. Alors la première chose, c'est que la plupart des manuels, donc vous achetez un manuel de japonais que vous pouvez trouver sur Amazon, sur la Fnac, etc. Ces manuels ont en général soit intégré, ou soit il y a un manuel à part d'exercice, ou plutôt pour apprendre les kana et les kanji, donc pour apprendre les caractères japonais, vous avez un manuel séparé, ou des fois c'est intégré dans le manuel de grammaire lui-même. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, vous aurez généralement des pages dédiées, par exemple au kanji ou au hiragana, au katakana, où il y aura une page comme ça avec des cases. Il y aura en fait un kanji par case, et on va vous dire, voilà, recopiez ce kanji 5-10 fois comme ça en suivant l'ordre des traits. Voilà, ça c'est vraiment la méthode classique. C'est ce que la plupart des manuels font, parce que c'est, voilà, c'est facile, tout le monde fait ça, voilà. Ensuite, la deuxième méthode dont je voulais parler, c'est la méthode étymologique. Alors, juste avant de continuer, je vous ai décrit la méthode classique, donc qui consiste à recopier les kanji dans plusieurs cases comme ça. Je vais vous dire dans un instant pourquoi cette méthode n'est pas efficace. Mais d'abord, je dois vous décrire la deuxième méthode que les gens utilisent. Et en général, les gens utilisent cette méthode en combinaison avec la méthode de recopiage dans les manuels, hein. Donc, les gens souvent utilisent la méthode ce qu'on appelle étymologique, c'est-à-dire que ils voient les kanji, donc par exemple dans un manuel de kanji, Et peut-être le manuel explique l'étymologie de chaque kanji, donc d'où vient ce kanji. Donc par exemple, vous avez le kanji, donc le caractère pour montagne en japonais, qui ressemble à une montagne. Donc ce que le manuel va faire, ou le site internet où vous apprenez, c'est il va prendre ce kanji et le superposer avec l'image d'une montagne. Comme ça, vous voyez, oh, ça ressemble à une montagne, et donc ça vous fait retenir mieux. Alors évidemment, utiliser des images, c'est toujours mieux que juste essayer de se souvenir comme ça sans images, mais remarquez que ces deux méthodes, donc recopier et utiliser des images, tout ça utilise la mémoire visuelle. C'est-à-dire que quand vous recopiez les kanji comme ça sur votre manuel, en fait, vous vous fixez comme ça, vous faites les mouvements et vous regardez en fait la forme de ce kanji et ça, soi-disant, ça se grave dans votre mémoire visuelle. Et c'est la même chose avec la méthode étymologique où vous regardez le kanji pour montagne, vous voyez une montagne derrière, ça se ressemble. Donc ça, c'est censé vous faire vous souvenir. C'est vraiment visuel comme méthode. Alors la méthode visuelle, c'est quelque chose qui est utilisé dans l'éducation, pas seulement pour le japonais, pour l'apprentissage d'autres langues, mais aussi d'autres matières. Mais le problème, c'est que en japonais, il y a tellement de kanji à retenir que ça ne marche pas, en fait. Vous allez vous emmêler les pinceaux. Donc en japonais, si vous voulez pouvoir lire un texte vraiment, on va dire, normal, de base, il faut au moins que vous connaissiez les 2000 kanji les plus courants. Donc les 2000 kanji les plus courants qui sont en général dans les manuels de base. Enfin, les manuels de base en général ont moins de 2000 kanji, mais si vous prenez un manuel spécifiquement pour les kanji, en général, il faut que ce manuel ait environ 2000-2200 kanji que vous puissiez apprendre. Le problème, c'est donc si vous utilisez la méthode visuelle, donc essayez de retenir avec des images, soit en recopiant, soit avec la méthode étymologique, vous allez vraiment vous emmêler les pinceaux parce que les kanji, il y en a des milliers, donc vous devez en retenir 2000, et quand vous serez à un niveau avancé, il y en aura peut-être plus que ça. Et ils se ressemblent en fait, surtout quand vous êtes un débutant, voilà, c'est juste un amas de traits comme ça. Et il faut vraiment avoir un moyen de les différencier plus en détail parce que les traits se ressemblent pour quelqu'un qui n'apprend pas le japonais de manière correcte. Donc voilà. Alors il y a aussi une troisième méthode il y a certaines personnes, notamment les gens qui ont vraiment la flemme de voilà, soit recopier les kanji dans les manuels, soit apprendre de manière étymologique. Il y a des gens qui apprennent juste en lisant, c'est-à-dire que au lieu d'apprendre les kanji comme ça, de s'asseoir, de prendre un manuel de kanji et de vraiment dire ok, maintenant je vais apprendre les kanji japonais, ces gens-là se disent non, bon, ce que je vais faire, je vais lire des mangas ou je vais lire des trucs en japonais, et une fois que les kanji apparaissent, bah voilà, je vais les retenir progressivement, donc c'est plus naturel. Alors ça aussi, c'est quelque chose que personnellement, moi, je faisais dans le passé, je pensais que ça allait marcher, mais le problème, c'est que il y a tellement de kanji, il y a tellement de combinaisons possibles de kanji que avec le japonais, ça marche pas. Il faut vraiment avoir une méthode qui est systématique et qui est optimisée pour l'apprentissage de ces milliers de caractères qui se ressemblent vraiment, en tout cas pour les étrangers. Donc voilà. Alors maintenant, je vous ai décrit tous les problèmes de voilà toutes ces personnes. La plupart des gens qui apprennent les kanji en utilisant ce type de méthode, c'est un gros problème. Ces personnes ne vont probablement jamais réussir à apprendre à savoir lire le japonais, à l'exception des profs de japonais. Voilà, si vous passez 5 ans à la fac à étudier le japonais, ben bien sûr que vous allez devenir bon en japonais, vous allez pouvoir lire le japonais. Mais ça ne veut pas dire que vous avez trouvé une bonne méthode, une méthode efficace qui prend assez peu de temps et pourtant qui peut vous enseigner le japonais le plus rapidement possible. Donc c'est pour ça que quand je vois voilà, des profs de japonais qui enseignent le japonais, oui, ils en savent assez sur la langue japonaise pour l'enseigner dans une classe, mais au niveau méthode, au niveau méthodologie de comment apprendre une langue, ils savent pas vraiment en fait, parce que ils ont passé 5 ans à apprendre le japonais, plus probablement dans leurs années quand ils étaient à l'école, ils avaient déjà commencé. C'est pas un bon exemple à suivre pour les gens comme moi, comme vous, ou peut-être on est tout seul à la maison, on n'a pas 4 heures par jour à dédier à l'apprentissage du japonais, on a peut-être 30 minutes, certaines personnes n'ont peut-être que 10 minutes. Il faut vraiment procéder de manière efficace. Donc, tous ces problèmes-là que j'ai décrits, c'est des choses à ne pas faire. Maintenant, je vais vous décrire qu'est-ce qu'il faut faire. Quelle est la méthode idéale pour savoir lire le japonais? Alors, la première chose dont je veux parler, c'est quelque chose dont je parle assez souvent dans ces épisodes, dans mes épisodes de podcast sur YouTube, c'est la mémoire imaginative. La mémoire imaginative, ça, ici j'essaye de la contraster avec la mémoire visuelle. Donc la mémoire visuelle, c'est ce qu'on a vu quand les gens recopient les kanji ou apprennent avec les images, donc l'image d'une montagne, tout ça. La mémoire imaginative ne s'appuie pas sur des images, donc des choses visuelles. C'est une mémoire qui s'appuie sur les concepts. Donc si vous pensez par exemple à... je suis sûr que vous avez par exemple des rêves que vous avez fait il y a des années, voire des décennies, ou alors quand vous étiez enfant, et pourtant vous vous souvenez toujours de ces rêves ou de ces cauchemars. Et ça, c'est surtout parce que vous avez, il y a comme un enchaînement logique entre les concepts qui étaient dans ce rêve ou dans ce cauchemar. Donc il y a cet enchaînement de concepts qui fait un certain, il y a un certain sens, on va dire, bien que parfois c'est un peu absurde nos rêves, mais il y a un enchaînement de concepts comme ça qui provoque un peu des sentiments comme ça, des réactions pour nous. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment gravé dans notre mémoire. Et la preuve, c'est que voilà, vous avez des rêves que vous avez fait quand vous étiez enfant, et maintenant vous vous en souvenez probablement toujours. Alors ça, ce type de mémoire, la mémoire imaginative, c'est quelque chose qu'on peut utiliser pour apprendre le japonais de manière beaucoup, beaucoup plus efficace que d'apprendre le japonais juste avec la mémoire visuelle. Donc je vais parler de ça dans un instant, mais tout d'abord je veux parler aussi du deuxième composant en fait de la meilleure méthode pour savoir lire le japonais, qui est ce que j'appelle la répétition espacée. Alors en anglais ça s'appelle spaced repetition, et c'est quelque chose qui est assez plus répandu au moins que dans le monde francophone. Donc je vais vous décrire un peu, et la répétition espacée, ça a tout à voir avec en fait la science de la mémoire, la science de comment est-ce qu'on retient les choses de manière rapide et sur le long terme. Alors d'abord, la répétition espacée, en fait c'est pas nouveau, c'est quelque chose qui est né, un concept qui est né avec un scientifique qui s'appelle Ebbinghaus. Donc Ebbinghaus, bon, qui est décédé, je sais plus exactement, je crois que c'est 18e ou 19e siècle. Donc Ebbinghaus, c'était un scientifique allemand qui étudiait la mémoire, et en fait il a trouvé, donc il a fait des études sur sa propre mémoire, sur des autres gens, il a trouvé qu'en fait quand on essaye de retenir des concepts, donc ça s'applique au kanji japonais, quand on essaye de retenir des concepts, ce qui se passe, c'est que le premier jour, voilà, on retient le concept et notre mémoire est presque parfaite. Ensuite, de jour en jour, cette mémoire décline, ça va en bas, ça va en bas, on se souvient de moins en moins bien, jusqu'à qu'on ait oublié en fait cette mémoire, donc jusqu'à qu'on ait oublié ces kanji. Alors la chose la plus importante à retenir ici, c'est qu'il a trouvé une solution en fait, en quelque sorte, pour cette courbe descendante où en fait on n'arrête pas d'oublier en fait les kanji, tous les concepts qu'on a appris. Il a trouvé aussi qu'en fait si on fait des révisions espacées, donc des répétitions espacées, on arrive à retenir les concepts sur le long terme sans les oublier. Donc c'est un des plus gros problèmes que les gens qui apprennent le japonais, les apprenants du japonais ont, c'est que ils apprennent les kanji ou les mots de vocabulaire et ensuite ils oublient ça très très rapidement ou même après quelques mois. Et donc ce qui se passe, c'est qu'il faut faire des répétitions espacées, c'est-à-dire que si vous apprenez un nouveau kanji, disons jour numéro 1, il faut réviser ce kanji le jour numéro 2, et ensuite le jour numéro 4, ensuite après une semaine, après deux semaines, après un mois, après deux mois, après quatre mois. Voilà, c'est vraiment espacé comme ça. C'est ce que les scientifiques ont trouvé qui est le plus efficace pour retenir les choses rapidement et sur le long terme. Donc c'est quelque chose qui est prouvé scientifiquement, c'est pas moi qui ai inventé comme ça et qui dit voilà, la répétition espacée, vous devez utiliser ça. J'ai utilisé ça moi-même pour apprendre notamment le vocabulaire en japonais. Et c'est vraiment très 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 efficace. À mon avis, c'est la seule méthode qui permet de retenir le vocabulaire et les kanji sur le long terme sans problème. Donc voilà, alors il y a deux choses, je récapitule, hein, pour la méthode idéale. Donc c'est une, il faut utiliser la mémoire imaginative, donc la même chose qui nous permet de retenir les rêves, les cauchemars. Et numéro 2, il faut utiliser les répétitions espacées, donc ce dont je viens de parler, qui a été trouvé par les scientifiques. Alors, ça c'était la méthode générale, maintenant je veux vous donner plus le programme vraiment étape par étape pour que vous puissiez suivre ce programme étape par étape pour savoir lire le japonais. Alors numéro 1, ça n'a pas grand chose à voir avec les kanji ni les kana, c'est apprendre la prononciation en japonais. Donc, quand vous commencez à apprendre une langue, c'est la, vraiment la chose la plus importante, c'est d'apprendre les sons de cette langue. Parce que c'est, on va dire, l'unité d'apprentissage de cette langue, c'est quelque chose que vous devez savoir. Quand vous allez apprendre des mots de vocabulaire, vous devez savoir comment les choses se prononcent, vous devez avoir les bonnes habitudes dès le début. Donc voilà, apprendre la prononciation, c'est la toute première chose. C'est pas une étape qui est très difficile, surtout pour les francophones. En japonais, il n'y a pas de sons qui sont trop difficiles pour les gens qui parlent français. Première étape, c'est ça. Deuxième étape, apprenez les kana, c'est-à-dire les hiragana et les katakana. Alors, les hiragana et les katakana, c'est les alphabets japonais. C'est des petits alphabets, ça va vous prendre normalement, si vous vous y mettez sérieusement, voilà, une semaine, maximum deux semaines pour apprendre tous les caractères hiragana et katakana. C'est vraiment quelque chose de facile. Donc je ne vais pas m'attarder trop sur ça, je pense que je ferai peut-être un épisode spécifiquement pour ça dans le futur. Mais je veux m'attarder surtout sur les étapes d'après. Alors la troisième étape, donc, c'est l'apprentissage des kanji. Et c'est largement l'étape qui va être la plus longue. Donc l'apprentissage des kanji, comme je vous ai dit, il faut utiliser numéro 1, mémoire imaginative. Donc utiliser des concepts. Donc précisément ce qu'il faut que vous fassiez, c'est pour chaque kanji. Donc chaque kanji est composé de plusieurs traits, on va dire, de plusieurs composants qui ensemble font une genre d'histoire. En tout cas, c'est à vous d'inventer cette histoire. Alors, ce qu'il faut faire en fait, c'est avoir chaque composant, et chaque composant va représenter un concept différent. Donc, je sais pas, un composant représente par exemple montagne, un autre composant représente le mot eau ou quelque chose comme ça. Ensuite, une fois que vous avez assigné un sens à ces composants, une fois que vous les voyez combinés dans un kanji, donc dans un caractère japonais, il faut combiner ces mots, donc je sais pas, eau et montagne, et trouver un sens à cette composition en quelque sorte. Donc je pense que je ferai un autre épisode précisément sur ce concept, parce que c'est pas nécessairement très facile de voir comment utiliser la mémoire imaginative pour apprendre les kanji, mais voilà, vous voyez à peu près le concept. Donc pour les kanji, utilisez ça, plus utilisez un logiciel qui permet de faire de la répétition espacée. Donc il y a des logiciels sur le marché qui sont gratuits d'ailleurs, que vous pouvez utiliser pour mettre donc vos kanji sur des genres de flashcards et après les réviser de manière espacée. Donc le logiciel va s'occuper automatiquement d'avoir les révisions juste au bon moment, au bon jour, pour que vous puissiez les retenir sur le long terme. Donc voilà, je pense que ça sera tout pour cette épisode, je sais que c'était un peu long. Si vous êtes sur YouTube, je vous invite à cliquer ici sur cette vidéo qui pourra vous intéresser, qui est sur apprendre le japonais pour les débutants. C'est plus un guide complet, donc cliquez ici. Si vous écoutez le podcast, inscrivez-vous au podcast pour être notifié des épisodes suivants. Voilà, c'était Loïs Lin de loïslin.com. On se retrouve dans le prochain épisode.